La 7, c'est 6 magasins pour vous accompagner dans tous vos projets. Construire, rénover, aménager. Retrouvez nos bons plans sur Facebook ou sur 7.nc. Info matin, Nicolas Legrand.
Emmanuel Macron présidera le sommet sur la Nouvelle-Calédonie. Les échanges débuteront le 2 juillet et dureront le temps nécessaire pour aborder ces sujets lourds avec tout le sérieux qu'ils méritent, selon les mots du président de la République. Une nuit d'intervention au centre d'enfouissement des déchets de Pointe-Boute, un incendie probablement criminel a pris hier soir. Un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, il est désormais respecté selon Donald Trump, alors que les deux pays l'auraient violé au début de son entrée en vigueur. L'actualité politique nationale, François Bayrou reçoit les partenaires sociaux individuellement à Matignon. Le Premier ministre consulte à nouveau après l'échec du conclave sur les retraites. Conséquence, le Parti socialiste va déposer une motion de censure soutenue par la gauche. Le sport, du football, avec la troisième journée des phases de poule de la Coupe du Monde des clubs qui continue ce matin. Dans le groupe C, Auckland City, déjà éliminé, affronte les Argentins de Boca Juniors. Du tennis, et c'est déjà terminé pour Loïs Boisson à Wimbledon. La française sensation de Roland-Garros est tombée dès le premier tour des qualifications du tournoi londonien. La météo, le ciel est souvent nuageux sur la pointe nord, alors qu'ailleurs, c'est le soleil qui l'emporte. Le vent de secteur est oscille le plus souvent entre 10 et 20 nœuds. Quant aux températures, elles sont stables entre 26 et 29 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une ce matin, l'actualité calédonienne.
Oui, Emmanuel Macron invite donc l'ensemble des acteurs de la Nouvelle-Calédonie pour un sommet. Il débutera le 2 juillet prochain. Le président écrit dans sa lettre adressée aux différents acteurs, et je cite, que les échanges dureront le temps nécessaire à ce que les sujets lourds que nous aurons à aborder puissent l'être avec tout le sérieux qu'ils méritent, Léo Fichou.
Le président rappelle que le processus issu de l'accord de Nouméa prévoyait, je cite, l'organisation de trois consultations et, une fois celle-ci réalisée, que les partenaires de l'accord se réuniraient pour examiner la situation ainsi créée. Le président affirme qu'après la crise débutée le 13 mai, la tension était trop forte pour permettre un dialogue apaisé entre toutes les parties prenantes du territoire. Emmanuel Macron revient ensuite dans son courrier sur l'échec de Deva. Il écrit que le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a réussi à renouer les fils du dialogue. Le chef de l'État estime que c'est un acquis en tant que tel. Il rappelle que ces échanges de Deva n'ont pas permis d'aboutir à un accord sur l'avenir institutionnel. Et c'est pour cette raison qu'il a décidé d'organiser et de présider ce sommet consacré à la Nouvelle-Calédonie. Le président souhaite y associer l'ensemble des acteurs du territoire pour qu'au-delà des sujets institutionnels qui sont majeurs, écrit-il, les échanges portent aussi sur les enjeux économiques et sociétaux.
Et dans un communiqué publié cette nuit, le député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf, se réjouit de la confirmation de ce sommet. Dans le contexte international actuel, il salue, je cite, « l'engagement personnel du président de la République vis-à-vis de la situation calédonienne. Cela témoigne de l'importance que la France accorde aux Calédoniens et à leur avenir. » Nicolas Metzdorf affirme que les partisans de la France sont prêts à travailler pour s'assurer d'une Nouvelle-Calédonie dans la République française. Dans ce communiqué, le député de la première circonscription rappelle qu'ils porteront, je cite, « un message simple et ferme, le respect du choix des Calédoniens et la volonté de reconstruire durablement la Nouvelle-Calédonie ». Je rappelle par ailleurs que les indépendantistes se réunissent en convention ce week-end pour décider de leur stratégie dans la poursuite des discussions lors de ce sommet. Dans l'actualité politique, une réunion publique ce soir à l'initiative des partisans de la France. Elle est organisée conjointement par les loyalistes et le Rassemblement et se tiendra à partir de 18h à l'Arène du Sud à Païta, en présence des responsables politiques des différents mouvements. Ce sera l'occasion de faire le point sur le bilan du conclave de Deva et de la tournée à Paris, ainsi que sur les prochaines échéances et notamment sur le sommet organisé par le président de la République à partir du 2 juillet. Un système de navette est prévu pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre sur place par leurs propres moyens. J'ajoute par ailleurs que nous reviendrons ce matin sur les propositions de Marine Le Pen pour la Nouvelle-Calédonie. Elles sont présentées dans un document de 16 pages intitulé « Propositions pour une Nouvelle-Calédonie apaisée, prospère et unie ». La chef de file des députés RN y évoque l'ambition de rassembler tous les Calédoniens autour d'un projet fédérateur pour sortir le territoire de la crise dramatique dans laquelle il est plongé. Nous reviendrons sur ce document en compagnie d'Alain Descombelles, le président de la Fédération du Rassemblement National en Nouvelle-Calédonie, sera en effet notre invité du matin à 7h30. Et puis dans l'actualité politique, toujours Ronald Frère, mais aussi Juanita Anjeksetin, frappée d'inéligibilité pour 3 ans. Ils étaient tous deux candidats aux élections législatives de 2024 et ils ont manqué à leurs obligations, Léo Fichou.
Oui, c'est ce que relève le Conseil constitutionnel qui a été saisi par la Commission nationale des comptes de campagne. Ronald Frère était candidat dans la deuxième circonscription. Il n'a obtenu que 808 voix, soit 1,08% des suffrages exprimés. Mais son compte de campagne n'a pas été déposé dans les délais, ce qui provoque la sanction du Conseil constitutionnel. Pour sa part, Juanita Angeksetin, qui se présentait dans la première circonscription, a recueilli 344 voix, soit 0,61% des suffrages exprimés. Elle non plus n'a pas déposé ses comptes dans les délais et elle n'a pas restitué les reçus des dons qu'elle a obtenus pendant la campagne. Cela lui vaut la même sanction d'inéligibilité qui lui interdira de se présenter à une élection pendant 3 ans.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, tout d'abord, 81% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que l'entreprise Biscochoc était directement visée dans l'incendie de son dock. Ils sont 19% à penser à l'inverse, que c'est un acte de délinquance ordinaire. Voici maintenant notre question du jour. Trouvez-vous utile de développer un service de type Uber en Nouvelle-Calédonie? Si vous trouvez que c'est utile, vous tapez 1. Si vous pensez que ce n'est pas utile, alors vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation. Et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. En attendant, il est 6h passé de 37 minutes. On va marquer une première pause dans ce journal avant de voir l'actualité internationale et ce cessez-le-feu entre Israël et l'Iran qui est entré en vigueur.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Chez Cheval Distribution, pour l'achat d'un sac Royal Canin Chien Maxi ou Médium Adulte 15 kg, 3 kg offerts. Royal Canin Chat Fit 10 kg, 2 kg offerts. Et pour votre chat stérilisé, 4 kg acheté égal, 2 couches stérilisées offerts. Offre jusqu'au 29 juin dans votre magasin.
Vous rêvez d'une nouvelle cuisine? DCSM vous propose des cuisines à votre style, adaptées à votre intérieur. DCSM, c'est des cuisines de qualité pour tous les budgets.
Venez découvrir votre future cuisine dans notre showroom, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
La suite du journal avec une fin des combats après 12 jours de guerre entre Israël et l'Iran. Un cessez-le-feu annoncé hier par Donald Trump, qui est maintenant en vigueur selon le président américain, après pourtant plusieurs violations signalées de part et d'autre au cours des dernières heures. Frédéric Simon, le correspondant d'Europe 1 en Israël, note un retour au calme.
En effet, les sirènes qui alertent les Israéliens de l'imminence de tirs de missiles n'ont pas retenti depuis ce matin, alors qu'elles faisaient partie du quotidien au cours de ces quelques 12 jours de confrontation avec l'Iran. Un signe qui ne trompe pas le commandement de la défense passive. Cette unité de l'armée en charge de la protection des civils en temps de guerre a annoncé ce soir la levée de l'état d'urgence. Les écoles et autres établissements publics réouvriront leurs portes dès demain. Les activités culturelles et commerciales peuvent reprendre sans restriction et le trafic aérien va progressivement revenir à la normale. Pourtant, le cessez-le-feu avait été violé un peu plus de 3 heures après son entrée en vigueur ce matin. 2 missiles lancés vers le nord d'Israël, interceptés par la défense antiaérienne. Les dirigeants israéliens promettaient une riposte cinglante. C'était compté sans Donald Trump, le président américain qui avait annoncé l'arrêt des combats la nuit dernière, a haussé le ton en reprochant tant aux Iraniens qu'aux Israéliens d'avoir violé le cessez-le-feu. S'en est suivie une conversation téléphonique tendue entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu, au cours de laquelle le président américain a exhorté le premier ministre israélien à renoncer à la riposte israélienne. Et de fait, les avions de chasse israéliens partis pour l'Iran ont rebroussé chemin depuis le cessez-le-feu et respecté de part et d'autre. Dans un communiqué publié ce matin et annonçant qu'Israël en acceptait les termes, Benjamin Netanyahu a assuré que les objectifs de l'offensive en Iran, à savoir écarter les menaces nucléaires et balistiques du régime des Mollahs, avaient été atteints.
Alors, vous venez de l'entendre, Donald Trump s'est montré exaspéré. Le président américain a haussé le ton face à Israël et à l'Iran qui s'accusent mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu, Rémi Amalvi.
Oui, il s'est exprimé devant la Maison-Blanche ce matin avant de s'envoler pour le sommet de l'OTAN à La Haye et il avait l'air quelque peu agacé.
Vous savez, quand je dis d'accord, vous avez 12 heures, vous ne pouvez pas sortir dès la première heure et larguer toutes les bombes que vous avez. Nous avons essentiellement 2 pays qui se battent depuis si longtemps et si durement qu'ils ne savent même plus ce qu'ils foutent.
À bord de Air Force One, Donald Trump a confié à plusieurs journalistes qu'ils ne souhaitaient pas de changement de régime en Iran, ils ne veulent pas de l'arme nucléaire et ils ne l'auront pas. Nos bombardiers B-2 s'en sont assurés, a-t-il estimé à propos du régime islamique. Aux États-Unis, l'annonce du cessez-le-feu a été plutôt bien reçue chez les partisans de Donald Trump comme chez les démocrates. Peu après son entrée en vigueur, Israël a cependant annoncé avoir détecté des tirs iraniens sur son territoire et a fait décoller plusieurs avions militaires militaire en direction de l'Iran, provoquant une vive réaction de Donald Trump sur son réseau Truth Social. « Israël, si vous bombardez l'Iran, ce sera une violation majeure du cessez-le-feu », a-t-il écrit en majuscule. Le président américain aurait aussi directement parlé à Benjamin Netanyahou pour le convaincre d'annuler son attaque sur Téhéran.
Rémi Malvy, le correspondant d'Europe 1 à Washington. Côté déclaration, le chef de l'armée israélienne déclare que la campagne contre l'Iran n'est pas terminée. Je cite encore, « Nous entamons un nouveau chapitre ». Quant au président iranien Massoud Pezeshkian, il affirme lui que son pays ne cherche pas à se doter de l'arme atomique, mais qu'il continuait à défendre des droits légitimes pour son programme nucléaire civil. Fin de citation. Alors en 12 jours, les tirs iraniens ont fait 28 morts en Israël selon Tel Aviv. Wilfried de Villers, l'envoyé spécial d'Europe 1, s'est rendu à Beersheva, au sud de l'État hébreu. Alors comment le cessez-le-feu est-il accueilli sur place ?
Eh bien d'abord avec de la colère, parce que Beersheva, c'est la dernière ville à avoir été touchée par un missile iranien tout juste avant l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu ce matin. Et les dégâts sont considérables, alors que la frappe a touché de plein fouet un immeuble. Quatre personnes se sont retrouvées piégées dans leur abri qui n'a pas résisté à la violence du choc. Après cela, difficile de croire qu'un cessez-le-feu puisse tenir, me confiait David tout à l'heure.
Franchement, je m'attendais à une nouvelle frappe aujourd'hui. Et nous ne devons pas nous arrêter tout de suite dans cette guerre, parce que l'Iran ne renoncera pas. Il faut aller jusqu'au bout, frapper jusqu'à ce que le régime des ayatollahs soit à terre.
Une riposte ferme, ils sont plusieurs ici à la réclamer, même si cela signifierait une rupture du cessez-le-feu, des habitants encore sous le choc. Et il y a ceux qui, au contraire, n'attendaient que cela, une fin de la guerre, même temporaire, même si le cessez-le-feu ne tient pas, dit Yoav.
Est-ce qu'on est sceptique ? Oui, on est sceptique. Mais on espère que ça tienne pour nous, pour nos enfants, pour l'avenir. Nous, on est Israéliens. Notre but, c'était d'éloigner le danger qu'il y a avec la bombe nucléaire et avec les missiles.
Yoav considère que tous les objectifs de cette guerre ont été atteints et souhaite désormais un retour au calme dans une ville, Beersheva, qui vit sous les bombes et les roquettes depuis le 7 octobre 2023.
Wilfried de Villers, l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Il est 6h43, on va marquer une nouvelle pause dans ce journal avant de voir l'actualité en métropole et notamment cet échec du conclave sur les retraites et le Parti Socialiste qui dépose une motion de censure contre le gouvernement Bayrou.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand. Chez Canel, une bonne connexion, ça se partage. Parrainez un proche et recevez jusqu'à 3 mois d'abonnement offert. Facile et rapide, dépêchez-vous. L'offre est valable jusqu'au 30 juin seulement. Parrainez dès maintenant sur canel.nc.
Les opticiens mutualistes vous proposent des montures de marque classique ou tendance et des verres top qualité de nos verriers Zeiss ou Essilor. Chez les opticiens mutualistes, trouvez au juste prix les montures et les verres qui vous conviennent pour un vrai plaisir de voir. Les opticiens mutualistes à Nouméa, La Foix et Conné.
Toute l'info en 3 lettres. RRB.
La suite de votre journal, on retrouve Nicolas Legrand.
Et l'actualité politique nationale s'est confirmée. Le Parti Socialiste dépose donc une motion de censure contre le gouvernement de François Bayrou. Le PS accuse en effet le Premier ministre de trahir sa promesse formulée en début d'année, à savoir consulter le Parlement sur un éventuel accord entre partenaires sociaux à l'issue du conclave sur les retraites. Sauf qu'il n'y a pas eu de compromis après l'ultime réunion d'hier matin. François Bayrou ne baisse pas les bras pour autant et reçoit les participants individuellement à Matignon depuis hier soir, heure de Nouméa. Barthélémy Philippe, alors faut-il espérer un miracle ?
Eh bien, le Premier ministre y croit toujours, mais à la sortie de leurs rendez-vous successifs à Matignon, les partenaires sociaux étaient peu enclins à se remettre autour de la table après 5 mois de négociations infructueuses. Pour la secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon, un accord demeure envisageable, mais seulement si le patronat s'aligne sur les revendications des syndicats concernant les départs anticipés pour pénibilité.
Tout le monde doit prendre ses responsabilités. Un accord est possible avec les éléments qu'on a pointés. S'il n'y a pas de réparation de la pénibilité, s'il n'y a pas de financement équilibré en termes d'efforts, ça sera sans la CFDT, c'est clair.
Accusé d'avoir torpillé le conclave par les syndicats et la gauche, le MEDEF montre peu d'enthousiasme pour un énième round de négociations. Le président Patrick Martin estime que son organisation a déjà tout fait pour arriver à un accord.
Il faut toujours une victime à un grand méchant. Le président du MEDEF à la tête du grand méchant. Mais je crois surtout que c'est un écran de fumée pour dissimuler les avancées considérables qu'a faites le MEDEF.
Visé par une motion de censure du PS, le Premier ministre François Bayrou doit maintenant expliquer comment il compte trouver une voie de passage.
Et si la motion de censure déposée par le Parti Socialiste devrait être soutenue par les autres groupes de gauche, le gouvernement ne devrait pas être renversé pour autant, puisque le Rassemblement National ne prévoit pas de faire chuter François Bayrou sur cette question des retraites. Alors, la question se pose tout de même à nouveau, va-t-on vers une censure du gouvernement ? Alexis de la Fontaine pour Europe 1.
Oui, le Parti Socialiste décide de sortir de sa neutralité et annonce déposer une motion de censure contre François Bayrou. Les écologistes, communistes et insoumis seront eux aussi signataires. Ça représente déjà 200 députés sur les 289 nécessaires. Écoutez la justification du député socialiste Arthur Delaporte.
Le Premier ministre a pris un engagement devant l'Assemblée nationale de revenir devant elle. Il ne le tient pas. Il ne souhaite pas que nous puissions débattre de tous les paramètres de la réforme des retraites. Dont acte, il a trahi sa parole et nous le censurons.
Pour éviter d'en arriver là, François Bayrou espère toujours obtenir un accord des partenaires sociaux. Mais cela ne suffira pas, c'est trop tard, assure le Parti Socialiste. C'est donc Marine Le Pen qui aura le destin du Premier ministre entre ses mains. Ses 140 députés suffisent à renverser François Bayrou. Mais pour l'instant, selon les informations d'Europe 1, le Rassemblement National ne devrait pas voter la motion de censure, préférant laisser passer l'été pour revenir en position de force à la rentrée lors des négociations sur le budget.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Et enfin, l'actualité judiciaire. Comme en première instance, le parquet algérien a de nouveau requis 10 ans de prison en appel à l'encontre de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Dans les geôles du régime algérien depuis le 16 novembre dernier, il a tenté aujourd'hui de se défendre lors de l'audience devant la cour d'appel d'Alger. Caroline Baudry pour Europe 1.
Oui, l'écrivain serait apparu en bonne forme, mais sans son avocat français. Il a répondu d'une voix ferme aux questions de la magistrate. La constitution algérienne décrète la liberté d'expression et on fait un procès pour de la littérature, dénonce Boualem Sansal, qui risque une décennie de prison. Noël Lenoir, présidente de son comité de soutien, était invitée sur Europe 1 aujourd'hui.
Je dirais qu'on n'est pas déçu par le pouvoir algérien, puisque le parquet est hiérarchisé, donc sous l'autorité du gouvernement, et il a requis ce qu'il avait requis en première instance, c'est-à-dire 10 ans, ce qui veut dire en réalité, pour un monsieur qui a 80 ans, qui est affaibli par un cancer dont il est atteint, la peine de mort en prison. Et ce qui est absolument indigne de la part d'un État qui se réclame du droit international, c'est que le procès a duré 10 minutes. Les charges qui sont montées contre lui sont totalement fantaisistes et nient absolument tous les principes juridiques dont se réclame l'Algérie.
L'écrivain avait été condamné en première instance à 5 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, après avoir déclaré aux médias français Frontières que l'Algérie avait hérité sous la colonisation française de territoires qui appartenaient jusque-là au Maroc. Peu importe la controverse historique, le président algérien doit gracier Boualem Sansal, insiste-t-elle.
Il sera certainement condamné, on ne sait pas à combien. Donc ce que l'on souhaite effectivement, c'est que le président algérien se rende compte qu'en réalité, il faut se débarrasser de ce cas et que ça ne glorifie pas le pays et que ça le met en difficulté.
À l'issue de ces réquisitions, la cour d'Alger rendra son verdict dans une semaine. Emmanuel Macron avait imploré son homologue algérien de faire un geste d'humanité. Une demande restée lettre morte.
Caroline Baudry pour Europe 1, 6h48. On marque une nouvelle pause dans ce journal sur Radio Rythme Bleu et ensuite direction Point Bout, puisqu'un incendie s'est déclaré, incendie vraisemblablement intentionnel, au centre d'enfouissement des déchets.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
La ville de Nouméa fête son anniversaire ce mercredi 25 juin à partir de 16h sur le terrain municipal de Magenta. Au programme, des animations seront proposées de 16h à 20h avec un spectacle de magie à 16h30 et la distribution des lanternes commencera à 19h pour un envol à 20h. Stands de restauration et manèges pour vos enfants seront également de la partie. Plus d'infos sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville. Venez savourer ce moment de festivité.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
RRB, première radio d'information.
L'actualité sur le territoire, c'est la suite d'Info Matin. On retrouve Nicolas Legrand.
Et je le disais donc, le CIVOM VKP a annoncé hier soir qu'un incendie probablement intentionnel s'était déclaré au centre d'enfouissement des déchets de Pointe-Bout, Léo Fichou.
Oui, le CIVOM affirme que les pompiers se sont rendus rapidement sur place pour cette intervention risquée puisque des explosions se sont produites dans le tas de déchets. Ce matin, le feu est maîtrisé, quelques flammes sont encore présentes, des fumerolles persistent aussi. Les pompiers sont présents sur place depuis hier soir. Ils réalisent notamment des rondes pour éviter que le feu feu ne se propage. Un engin de terrassement est attendu dans les prochaines minutes pour étouffer ce qui reste du feu. Les explications d'Arnaud Banfi, directeur du CIVOM VKP.
Les circonstances du départ de feu sont inconnues. Après, on se doute que c'est quelqu'un qui est allé allumer ce feu. Il n'y a pas de raison que ça prenne spontanément. Les pompiers sont rapidement rendus sur place avec les gendarmes et le garde champêtre de la commune de Pointe-Bout. Ils ont essayé de le circonscrire. Après, c'est difficile de travailler de nuit sur un feu de dépotoir. En fait, le problème d'un feu de dépotoir, c'est que ça prend en profondeur, en fait. Donc, pour réussir à vraiment l'éteindre, il faut réussir à gratter et à inonder totalement le feu ou à l'étouffer. Ce matin, on a fait un point d'étape avec le commandant à 5h45. Il a pas trop évolué en superficie. Et là, on attend l'engin, là, dans les minutes à venir pour pouvoir commencer à travailler plus en profondeur pour vraiment essayer de l'éteindre.
Le CIVOM VKP invite d'ailleurs la population à proximité à fermer portes et fenêtres pour éviter de respirer les fumées.
Et enfin, le RSMA a été sélectionné pour participer au défilé militaire du 14 juillet sur les Champs-Élysées à Paris. Une délégation de 51 volontaires stagiaires et techniciens calédoniens accompagnés d'une vingtaine de cadres vont pouvoir représenter le territoire. Depuis plusieurs semaines, ils s'entraînent ensemble pour maîtriser les gestes et le tempo imposés par la musique. Un travail exigeant qui se poursuivra même à Paris pour être au point le jour J. Écoutez le lieutenant-colonel Faldoni Révillon, il est chef de corps du RSMA NC. Il insiste sur la fierté que procure cet événement.
C'est tout à fait exceptionnel de défiler pour le 14 juillet d'une part, et plus encore lorsqu'il s'agit de défiler sur les Champs-Élysées à Paris devant des millions de téléspectateurs. Donc les jeunes éprouvent en ce moment un sentiment de grande fierté, d'autant plus qu'ils ont été triés sur le volet au vu de leurs mérites au sein du régiment et dans le cadre de leur formation professionnelle. On leur explique à quel point ils peuvent être fiers d'avoir été désignés pour venir défiler sur la plus belle avenue du monde. On leur dit à quel point ils peuvent être fiers de représenter le régiment du service militaire adapté et à la fois leur territoire calédonien, wallisien ou futunien.
Un défilé prestigieux, mais aussi une première découverte de la métropole pour la majorité des participants. Au programme, la visite du château de Versailles et du musée du Quai Branly pour découvrir la culture française. Il est 6h52. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On marque une dernière pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive. On va notamment parler de tennis et c'est malheureusement déjà fini pour Loïs Boisson.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Savez-vous que si vous êtes équipé d'un chauffe-eau électrique, vous pouvez couper son alimentation si vous vous absentez plus de 24 heures afin de supprimer la consommation due au maintien de la température?
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Chez Maison Thirier, le duo moule frites est de retour. Pour l'achat d'un kilo de moule, profitez du kilo de frites pour 100 francs de plus, soit le tout à 1090 francs seulement. Offre valable jusqu'au 31 juillet dans vos 4 magasins à Pogoti, Magenta, Faubourg et Vata. Maison Thirier, goûtez, ça change du surgelé.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
Info matin, l'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Du football avec ce coup de tonnerre en Ligue 1. Un club historique du championnat de France est relégué en Ligue 2. Auditionné ces dernières heures par la DNCG, la Direction Nationale de Contrôle et de Gestion, l'Olympique Lyonnais n'a pas convaincu le gendarme financier du football français et est donc rétrogradé administrativement à titre conservatoire. Les dirigeants de l'OL peuvent encore faire appel de cette décision. Du football toujours sur les terrains, ce coup-ci, avec la suite ce matin de la troisième et dernière journée des phases de poule de la Coupe du Monde des clubs, Léo Fichou.
Oui, deux rencontres au programme ce matin, deux matchs du groupe C. D'un côté, Auckland City affronte les Argentins de Boca Juniors. Déjà éliminés avec 16 buts encaissés en deux matchs, les Néo-Zélandais veulent sauver l'honneur. Mais problème, les joueurs de Boca doivent absolument l'emporter pour espérer décrocher une qualification pour les huitièmes de finale. À la mi-temps, le score est de 1-0 pour Boca Juniors. Et puis dans l'autre rencontre, le Bayern Munich est opposé au Benfica Lisbonne. Si les Allemands sont déjà qualifiés avec deux victoires en deux matchs, les Portugais, eux, veulent finir devant leurs adversaires et éviter que Boca Juniors ne les dépasse au classement. À la pause, c'est le Benfica Lisbonne qui mène là aussi 1-0 au classement. Ça donne donc Benfica qui est en tête provisoirement, bien évidemment, devant le Bayern Munich, Boca Juniors et enfin Auckland City qui est bon dernier.
Du basket maintenant, les féminines de l'équipe de France sont en demi-finale de l'Eurobasket. Elles se sont imposées cette nuit sur la Lituanie. Une victoire 80 83 à 61. Dans le dernier carré, les Bleus seront opposés à l'Espagne ou alors à la République tchèque. Un mot de tennis maintenant, et je le disais, c'est déjà terminé pour Loïse Boisson à Wimbledon, Léo.
La Française, demi-finaliste de Roland-Garros, alors qu'elle était invitée par les organisateurs, elle s'est inclinée en 3-7 au premier tour des qualifications de Wimbledon contre la Canadienne Carson Brandstein. Le score 2-6, 7-6, 4-6. En revanche, ça passe pour d'autres Françaises. Diane Parry, Alizé Cornet, Selena Janisijevic et Elsa Jacquemot joueront le deuxième tour des qualifications de Wimbledon. Chez les hommes, on retrouvera Arthur Cazot, Kyrian Jacquet, Arthur Bouquier, Valentin Royer, Hugo Blanchet, Tito Androguet, Lucas Van Hache et Lucas Pavlovic au second tour de ses qualifications pour le tournoi londonien.
Et puis on termine sur le territoire avec une course à pied, pas comme les autres. Ce sera samedi avec le retour de la Backyard. Il s'agit d'une épreuve d'endurance toute particulière qui se déroulera sur l'hippodrome Henri Millard. Un véritable défi, nous détaille l'un de ses organisateurs, Sébastien Bourlard.
Le principe est très simple, c'est une course d'endurance dans laquelle les participants doivent courir une boucle de 6,7 km pendant une heure. Ceux qui n'y arrivent pas sont éliminés, ceux qui y arrivent continuent. Et la course continue ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul coureur capable de reprendre le départ. Pendant une heure, il faut faire ces 6,7 km. Donc on peut les faire en 40 minutes, en 50 minutes. Et après, on fait ce qu'on veut du temps qui reste. Ça a été créé en 2011 et aujourd'hui, la Backyard est courue dans plus de 80 pays. C'est un format ultra qui peut durer longtemps. Hein, mais il ne faut pas oublier, c'est une course qui est ouverte à tous. Ça va être ouvert aux coureurs les plus aguerris et aussi aux coureurs les plus modestes, plus amateurs qui vont chercher surtout à se challenger, à battre leur propre record.
Une Backyard qui affiche complet. Hein. Le départ sera donné samedi à 7h sur l'hippodrome Henri Millard.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, ce matin le ciel sera souvent un peu nuageux sur l'ouest et passagèrement nuageux ailleurs, avec quelques averses qui se déclencheront sur la façade est. Le vent lui de secteur est pour ce matin 15 à 20 nœuds, il dépassera encore les 20 nœuds sur la pointe nord avec des rafales prévues jusqu'à 30 nœuds. La côte ouest 15 à 20 nœuds dans l'axe des vallées. Cet après-midi, le ciel sera souvent nuageux sur la pointe nord ailleurs, alors qu'ailleurs le soleil qui l'emportera. Le vent lui sera orienté à l'est pour cet après-midi, 10 à 15 nœuds, 15 à 20 nœuds au nord de la Grande Terre, ça sera le maximum. Les températures elles comprise entre 26 et 29 degrés.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal.